Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontres dédiées à l'immobilier.
Allô Houston, est-ce que Houston m'entend ?
Il vous entend très bien.
Ah bon, d'accord. Non, petite allusion à ce qui se passe évidemment dans les prochaines heures. Vous n'êtes pas sans savoir que Thomas Pesquet va être le Français qui s'envole dans l'espace.
Exactement.
Ça se passe vers 11h, je crois, ce matin.
11h49, plus exactement, heure voilà. De Paris, hein, puisque ce sera 5h49, heure locale en Floride. Il fait partie des 4 astronautes qui s'apprêtent à s'envoler vers la Station Spatiale Internationale. Je vous rappelle qu'il s'agit du groupe privé d'Elon Musk, hein, SpaceX, qui l'envoie dans l'espace.
Qui a été choisi par le gouvernement américain, effectivement.
Tout à fait. Et alors hier, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, il a tweeté son dernier repas. Enfin non, il parlait d'ultime repas, parce qu'apparemment, il ne faut pas dire dernier repas.
Non, parce qu'il y a quand même un petit déjeuner qui est prévu, qui est assez costaud apparemment. Mais alors donc, hier soir,
après,
il a mangé quoi ?
Alors, oui, il a mangé poulet, purée, un bon plateau de fromage qu'il a pris en photo et qu'il a posté sur Twitter, et glace en dessert.
Bon, bah, c'est pas mal.
Je peux vous dire que son plateau de fromage
m'a fait un repas très français.
Très français, exactement.
Alors, j'ai quand même j'ai entendu dire qu'on lui avait préparé un bœuf bourguignon qu'il allait pouvoir déguster dans l'espace.
Absolument. C'est une entreprise française qui a créé ses plats, effectivement, hein, dans des toutes petites boîtes. Et visiblement, ça n'a pas énormément de goût quand on est tout là-haut dans l'espace.
Le goût est modifié.
Absolument, on perd le goût. Ils ont été obligés de rajouter tout un tas de petites épices pour justement arriver à trouver un peu de saveur. Non, mais c'est compliqué
c'est drôle.
Hein. Tiens, Laurent Bizot, vous êtes, je le rappelle, notre invité dans le Mac de l'Immo ce matin. On est très heureux, évidemment, de vous avoir avec nous à 8h04 sur Radio Immo. Ça vous aurait plu ? Ça vous a fait rêver, vous, l'espace, un jour, quand vous étiez petit ou plus tard, maintenant, je ne sais pas ?
Je pense qu'on en a tous rêvé. On a tous eu un jour une lunette qui nous a été offerte à Noël et on a tous regardé les étoiles et puis ces étoiles filantes et puis la grande ours. Donc bien évidemment, et on est quand même très fiers de voir qu'un astronaute français puisse de nouveau partir dans l'espace.
Ben voilà. Ben en tout cas, on lui souhaite bonne chance et on va suivre évidemment ce décollage tout à l'heure. On sera tous devant les télévisions, hein, bien entendu. Alors, Laurent Bizot, qui est donc le patron de l'UNEP, hein, je le rappelle, ce sont les entreprises du paysage. 30 000 entreprises, c'est ça ?
30 000 entreprises en France, tout à fait.
C'est en augmentation ou pas, le nombre d'entreprises du paysage ?
Oui, bien sûr. On est à la fois au niveau du nombre des entreprises et à la fois au niveau du nombre des actifs. On est en une croissance très forte. Faut dire, les 10 dernières années ont doublé. Il y a eu 10 000 entreprises de plus de créées en France.
Ah oui, quand même. Qu'est-ce qui attire encore aujourd'hui ?
Alors, la tendance du vert, il faut savoir que c'est un métier où on fait de la création, où on fait de l'entretien.
Je le disais, vous êtes un artiste, vous-même.
Nous sommes des artistes, effectivement.
Et on le dit pas assez. Non, mais c'est vrai.
Et puis très clairement, eh bien, l'évolution de ces dernières années et puis l'année 2020 n'a fait que renforcer effectivement ce côté créatif. Cette envie de vert. Et les métiers se sont très clairement multipliés dans nos activités. Nous pourrons en parler, mais nous avons une vraie richesse de métiers qui est proposée.
Alors, Laurent Bizot, tiens, on se posait une question en préparant l'émission avec Bérénice. On se disait, voilà un métier où on est très proche du public, en contact permanent avec le public, avec les clients. Vous êtes vacciné, vous ?
Pas encore, puisque alors ça me fait plaisir, puisque je suis encore dans une tranche d'âge
en dessous de 55 ans,
considéré comme a priori jeune.
Oui.
Donc pas encore prioritaire entendre, pour ce vaccin.
C'est vrai,
vous ne pouvez pas comprendre encore, vous. Mais nous, on a la cinquantaine.
Ah oui.
Évidemment...
Je comprendrai plus tard.
Ouais, voilà. Vous comprendrez plus tard.
Nous n'avons pas encore franchi cette barrière.
Voilà, exactement. Bon, en tout cas, écoutez, on va évidemment vous découvrir. Et Bérénice avait envie de vous poser plein de questions. C'est parti.
Oui, alors, déjà, on parle de la crise. Comment s'est passé votre confinement, déjà, alors, à titre personnel, et puis pour l'entreprise, donc premier confinement, et puis les deux autres ?
Alors, forcément, comme on l'évoquait au départ, on a quand même eu une vraie période d'adaptation et une période d'interrogation, puisque savoir comment remettre en route sa propre entreprise. Il fallait bien évidemment la sécurité et la santé de nos salariés étaient au cœur de nos propriétés. Voilà, il fallait rassurer les salariés sur le fait que toutes les conditions de travail étaient prises pour leur permettre de travailler en sécurité. Alors pour ce faire, notre syndicat professionnel, l'UNEP, les entreprises du paysage, tout de suite on s'est mis en avant et tout de suite on a su accompagner les entreprises, accompagner nos adhérents, justement pour leur permettre de reprendre leurs activités au plus tôt.
Mais quel a été le protocole chez vous ? Parce que c'est vrai que vous êtes en plein air, donc a priori il n'y a pas de problème particulier.
Alors le protocole a quand même été de mettre déjà notre plan de continuité d'activité. Donc il fallait mettre en place, c'est un document officiel. Ce document, on a su le mettre avant le monde du bâtiment. En 15 jours, 3 semaines de temps, on a su rédiger ce document à disposition des entreprises et qui, grâce à ce document, avait un protocole qui leur a été fourni. Alors qu'on connaît tous en matière de gestes, en matière de sécurité, de fourniture, etc. Pour pouvoir continuer les activités.
Donc masque, gel évidemment pour les personnels.
Masque, gel, mais également, faut savoir que nous nous rendons sur des chantiers avec des véhicules, donc il fallait prendre des précautions dans les véhicules. Par exemple, une personne par véhicule, alors que là où on est habitué à avoir deux ou trois personnes dans chaque véhicule, au départ c'était une personne par véhicule. Des problèmes aussi pour les repas du midi. Donc un certain nombre de problèmes évoqués, énumérés, et qui, où on a su mettre un petit peu les solutions en face.
Est-ce que, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on se pose quand même, on le disait tout à l'heure, un certain nombre de Français ont choisi de se mettre au vert ces derniers mois avec les confinements. On s'est retrouvé pour certains d'entre nous confinés dans 20 mètres carrés dans les grandes villes. C'était quand même un petit peu difficile lors du premier confinement. Donc beaucoup partent effectivement et redécouvrent la France quelque part et nos territoires, ce qui est absolument formidable. Bah oui, vivre à Guéret, c'est pas si mal que ça, Bérénice.
Tout à fait,
elle me regarde avec un œil un peu goguenard.
Je suis totalement d'accord. Non,
mais est-ce que cette envie de vert, ce retour quelque part à la nature, au jardin. Il y a eu énormément de ventes dans les jardineries, on a replanté, on n'arrête plus. Bon, est-ce que ça, vous le ressentez, vous, au niveau des entreprises du paysage réellement ?
Alors, tout à fait. Et puis, n'oublions pas le contexte aussi. Si on revient un an en arrière, lors du premier confinement, on était au mois de mars, on était au printemps, et il faisait un temps magnifique.
C'est vrai.
Donc, forcément, l'envie d'aller se réfugier au vert. Alors, soit dans un jardin, les gens qui avaient la possibilité d'aller se confiner dans une maison de campagne, chez des amis, en famille, un jardin. Mais ne serait-ce qu'au moins un balcon ou une terrasse ont été importants. Et puis, un point essentiel, c'est que dans les zones urbaines, lors du premier confinement, les espaces verts publics ont été fermés.
C'est vrai.
Et ce qui a manqué à énormément de personnes. Et une chose importante pour nous, nous avions fait à l'époque, nous, l'UNEP, un sondage, et qui avait révélé que c'était les jeunes à qui ces espaces verts publics avaient le plus manqué. Et ce qui fait que très rapidement, nous avons mené des actions auprès des pouvoirs publics pour que, s'il devait y avoir, et ça a eu lieu, un deuxième confinement, ces espaces verts restent ouverts, ce qui a été le cas. Donc on a eu beaucoup de satisfaction par rapport à ça, puisque les élus ont bien compris l'utilité de laisser ces espaces verts ouverts et que les gens puissent, même si c'était à proximité et sur un temps réduit, qu'ils puissent bénéficier de ces espaces verts.
Quand vous repensez à tout ça, Laurent Bizot, c'est-à-dire que vous êtes une fédération professionnelle et vous êtes obligé de faire pression sur le gouvernement, sur les élus, pour que les parcs publics soient ouverts. Est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose d'absolument hallucinant dans tout ça quand même ? Être obligé de faire pression pour que les parcs publics restent ouverts.
Et
à l'époque, politiquement, ça paraît dingue.
Et exactement, parce que dans les premiers instants, en fait, ces élus ne comprenaient pas justement finalement quels étaient les intérêts qu'il pouvait y avoir d'aller se promener, ne serait-ce que pour un côté social et psychologique des gens, parce que comme vous le dites, c'est les personnes qui ne pouvaient pas bénéficier personnellement d'un espace privé, balcon, terrasse, jardin, bah, avait quand même besoin d'aller se réfugier. Et puis, nous avons vu quand même que quelques mois après, et tout récemment, notre Premier ministre a quand même dit et déclaré que finalement on était très bien en extérieur et qu'il souhaitait que la vie se fasse en extérieur. Donc il a mis quelques mois
pour le confinement que nous sommes en train de vivre, on nous a dit sortez, soyez dehors, etc.
Exactement. Donc,
alors c'est vrai qu'on découvre aussi tout un tas de choses sur la pandémie au fur et à mesure. Hein, donc je comprends aussi que les politiques soient un peu perdus. Mais bien sûr, c'est vrai que par moments il faut suivre et c'est pas évident. Vous avez dit un mot qui est une sorte de clé de voûte pour Bérénice. Vous avez prononcé le mot balcon.
Tout à fait.
Et alors, elle a un problème de balcon. Alors, elle voulait vous demander un conseil, bien évidemment, profitez de l'occasion, Bérénice.
Oui, parce qu'en fait, j'ai deux petits balcons. Il y en a un sur lequel j'ai mis des roses et l'autre, je ne sais pas comment l'aménager. Voilà, je voulais savoir que peut-on faire.
Mais ça fait combien de mètres carrés votre balcon, vous ?
Oh, je ne sais pas, c'est un petit balcon parisien.
2 mètres carrés ?
Oui. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur 2 mètres carrés?
Il est très bien exposé, du soleil toute la journée, il n'y a pas de vis-à-vis dernier
étage. Vous êtes plein sud.
Exactement.
Bon. Eh bien, écoutez, déjà, j'ai envie de vous dire, comme ça, faites appel à un professionnel du paysage.
Bah, c'est pour ça, c'est ce qu'elle fait, vous êtes là. Donc, voilà.
Vous parliez de 30 000 entreprises en France, donc beaucoup d'entreprises sauront répondre à cette question.
Et se déplacent pour les particuliers comme ça, en appartement
Bien sûr. Alors, il faut savoir que dans notre filière, nous avons trois types de marchés. Nous avons le marché des particuliers qui représente pratiquement la moitié de notre chiffre d'affaires.
D'accord.
Et puis, les deux autres marchés, ce sont les marchés publics pour à peu près 25%.
Les jardins, les parcs.
Voilà, marchés délivrés par les donneurs d'ordre publics, les mairies, toutes les collectivités dans leur ensemble. Et puis les marchés privés, les marchés qui regroupent les copropriétés et puis les donneurs d'ordre en immobilier.
Et ça représente combien en pourcentage de votre...
Alors, en gros, un quart de marché public, un quart de marché privé et 50% de marché public, de marché des particuliers, voilà. Donc en fait, pour répondre à votre question, puisque vous avez cette problématique de balcon, bah oui, bien sûr, nous répondons à ce type de marché. Et puis, nous nous rendons chez vous, nous allons vous établir un devis, nous allons prendre des photos de votre balcon. Et puis, en fonction de vos souhaits, en fonction de la place dont vous disposez, vous avez parlé d'exposition, parce que bien évidemment, c'est important, on ne met pas les mêmes plantes au nord qu'au sud. Donc, on saura répondre à votre demande et on saura vous chiffrer et venir vous installer vos jardinières, vos plantes et puis vous donner des conseils d'entretien. Mais nous sommes aussi là pour entretenir après, le souhaitez, entretenir vos balcons.
Il y a un service après continu.
Il y a le SAV.
Ah, c'est
génial.
Mais c'est vrai, parce qu'on ne le sait pas. En fait, moi, j'aurais jamais pensé que pour un petit balcon, une entreprise.
Mais vous avez quoi sur votre balcon?
Mais pour l'instant, j'ai rien. J'attends.
Il n'y a pas des rosiers? Vous m'aviez
dit
qu'il
y avait des rosiers. C'est sur l'autre balcon. J'ai deux petits balcons.
Ah, d'accord.
Voilà, il y en a un qui est
il y a des rosiers, donc, sur le deuxième.
Exactement.
Ils sont beaux ?
Très beaux rosiers. Là, ils sont en train
de fleurir.
De bourgeonner.
Exactement.
Il y a
déjà des bourgeons
cette saison.
C'est vrai qu'il est encore un peu malade.
Ouais. Mais attention aux maladies. Le rosier est une plante qui est particulièrement sujet aux maladies.
Et les pucerons.
Ouais,
c'est l'enfer.
Je m'en occupe bien.
Petite question pour revenir sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire ce découpage de clientèle, les copros, évidemment, les particuliers et puis les marchés publics. Comment se portent ces trois marchés aujourd'hui ? Concrètement.
Alors, d'une façon générale, la filière se porte bien. Un chiffre. Sur l'année 2020, nous avons eu une perte de chiffre d'affaires de moins 1,5%. Ce qui reste...
Peanuts.
Ce qui reste rien.
Peanuts,
ce qui reste absolument rien. Et donc, on est vraiment une filière très optimiste et très positive. Après, comme je vous le disais, il y a une répartition au niveau de ces marchés. Le marché du particulier, c'est le marché qui se porte le mieux. Nous l'avons vu, on vient d'en parler. Il y a une forte demande et une forte appétence pour les jardins. À la fois, les particuliers donc, se sont rendus dans des jardins ou ont eu un balcon et ont eu une véritable envie de faire quelque chose dans le jardin.
Et vous pensez que ça va durer, ça, ou c'est juste éphémère ?
Alors, on est très confiant dans l'avenir et on est persuadé que oui, effectivement, de toute façon, il y a eu une prise de conscience qui s'est faite par rapport aux particuliers de la nécessité, en fait, d'avoir une zone verte. Pour en parler, mais les achats en immobilier, là, est juste un chiffre d'une étude Se Loger qui a montré que c'était le premier critère d'achat aujourd'hui pour 35%, voilà, était quand même d'avoir une zone verte. Donc effectivement, au niveau du marché des particuliers, un marché en forte croissance, une vraie demande. Les particuliers font aussi, vous le disiez tout à l'heure, peuvent aller dans une jardinerie, acheter leurs plantes par eux-mêmes. Mais nous sommes là aussi pour des notions d'expertise et de professionnalisme. Nous sommes les professionnels pour réaliser, entretenir, et les particuliers ressentent ce besoin-là et ont besoin de se faire accompagner par rapport à ça.
Bon, donc ça, c'est les particuliers. Les marchés publics ?
Les marchés publics, c'est notre inquiétude. Grosse inquiétude par rapport à ça. On va dire qu'il y a une forte baisse par rapport à ces marchés-là. On était sur une très belle dynamique au niveau des marchés publics. Il y a eu depuis un an...
Et ça, c'est la conséquence de la crise aussi.
Ah, mais c'est directement la conséquence de la crise. Avec aussi, en parallèle, n'oublions pas les élections municipales en 2020.
Oui.
Avec un changement de municipalité.
Oui. Avec des villes écolos.
Avec des villes écolos qui...
Mais c'est bon ça l'écologie pour vous, non?
Ah oui,
pour votre secteur.
Alors, l'écologie peut, bien évidemment, l'écologie porte le vert, l'écologie peut aller aussi dans le sens que l'on souhaite. Simplement, il ressort que certaines municipalités écologistes n'ont pas continué pour l'instant et ont des interrogations sur les marchés.
Mmh. Et sur des constructions, par exemple.
Sur les
des
constructions.
Des programmes de construction qui sont à l'arrêt.
N'oubliez, parce que nous sommes en deuxième ligne par rapport aux constructions. C'est-à-dire que nous sommes un métier qui est directement entre le monde agricole et le monde du bâtiment. Mais nous sommes en deuxième ligne par rapport au monde du bâtiment. Donc si le bâtiment ne se construit pas, si le bâtiment ne se fait pas...
Il n'y a pas de jardin autour.
Ça veut dire qu'il n'y a pas... Exactement, il n'y a pas de jardin autour. Mmh. Donc,
et le neuf s'enfonce dans le rouge, hein, on le voit.
Voilà, donc nous sommes effectivement sur de fortes inquiétudes par rapport à ces marchés-là. Et toutes nos actions, l'UNEP est là aussi pour porter ces actions-là auprès des pouvoirs publics pour justement maintenir ces marchés-là. Mmh. Et relancer les marchés, ce qui est important pour nous. Et puis, là, prochainement, les élections régionales. Donc, nous sommes mobilisés sur ces actions-là pour justement que les programmes au niveau des élections régionales, ces programmes immobiliers soient également portés.
Sur les copros, deux mots, c'est pas facile, les copros.
Les copropriétés, c'est une réponse différente. On parlait du marché des particuliers. Quand on travaille pour un particulier, c'est un client. Quand on travaille pour une copropriété, bah, parfois, ça peut être 5, 10, 100 et ouais. 200 clients. Et qui peuvent
comme
avoir...
avait dit Macron, 67 millions de procureurs. Donc là, c'est un peu le voilà. même problème. Quoi. On est comme ça, on est français. On a tous un avis différent. Mais c'est ça le problème dans les copros.
Et qui ont un avis tout à fait différent. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment sur un tournant au niveau de la gestion des jardins avec une vision des jardins qui va évoluer. Mais... Il est important pour nous de pouvoir communiquer auprès des copropriétaires pour leur expliquer les modifications éventuelles de la gestion de leur jardin. Mmh. Puisqu'on parle de sujets de biodiversité, on parle de sujets de réduction de phyto et de zéro phyto. Une date importante, hein, 1er juillet 2022, zéro phyto, plus de traitement, même dans les espaces privés. Donc dans les espaces de copropriété, il n'y aura absolument plus de traitement. Ce qui veut dire que la vision et la gestion des jardins sera tout à fait différente. Donc il faudra communiquer, former nos collaborateurs à ces sujets-là qui pourront justement montrer et démontrer l'intérêt et une vision différente des jardins qu'il y aura dans les copropriétés.
Laurent Bigeon, on va continuer de parler évidemment de votre profession et de tout ce qui tourne autour. Hein. Aujourd'hui, c'est absolument passionnant. Évidemment, vous êtes sur Radio Imo, c'est le Mac de l'Imo, il est 8h20 et on vous a, avec Bérénice, réservé des petites surprises. Et la première, c'est maintenant ?
Exactement. Comment mieux connaître une personne ? Eh bien, il faut parler à ses proches. C'est ce que nous avons
c'est
fait.
Vrai.
Nous avons eu par téléphone alors quelqu'un que vous connaissez très bien, puisqu'il travaille avec vous. Est-ce que vous voyez de qui je parle ?
Je pense que vous parlez de Christophe Debarry.
Exactement, Christophe Debarry.
C'est qui Christophe Debarry ?
Alors, c'est une personne, un monsieur qui travaille ouais. avec Laurent Bigeon.
Ah,
juste avant de l'écouter, en deux mots, comment vous décrivez au travail ? Comment êtes-vous ?
Comment vous décrivez vous-même
en fait, hein.
Comment vous voyez dans le miroir du travail, tiens ? Pas facile, ça.
Question pas facile, mais je me vois comme déjà un véritable professionnel, puisque j'ai une formation à la base d'architecte paysagiste.
Vous connaissez le métier.
Je connais le métier.
Et avec les collègues.
Et puis,
vous êtes un tyran ou pas, non?
Je pense avoir de bonnes relations avec, avec mes collègues.
On va écouter Christophe Debary, voir s'il partage le même avis que vous. Christophe Debary, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous travaillez avec Laurent Bizot.
Oui, je travaille au quotidien avec lui. Je le connais depuis plus de 20 ans, Laurent. Et je travaille au quotidien avec lui depuis un peu plus d'un an maintenant.
D'accord. Et alors, comment ça se passe au quotidien avec Laurent? Comment il est dans le travail?
Ah, Laurent, c'est quelqu'un que je définirais d'abord comme très humain et extrêmement respectueux des personnes qui l'entourent. C'est une valeur assez rare. Mais extrêmement fort chez lui. Évidemment, évidemment non, c'est pas évident. Il est très professionnel et notamment au-delà de la connaissance de son métier, très sensible aux différents enjeux de défense de la biodiversité et de l'environnement. Et c'est également quelqu'un qui, mais ça va avec notre métier, qui est très sensible à la déco, aux belles choses.
Ah oui.
Et ouais, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui se fait, qui se documente énormément.
Et vous avez une petite anecdote, par exemple?
Bah oui, on parle de déco, justement. C'est drôle, il y a deux mois, il vient me voir au bureau, il me dit « Tu ne trouves pas que nos bureaux, ils sont vieillots, la déco, elle n'est plus à la mode et tout ?» Je dis « Oui, oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà, rien de plus. » Deux semaines après, il y avait une équipe qui a refait tout, du sol au plafond. Voilà, c'est rapide et efficace. C'est Laurent, une définition, voilà.
Très bien. Et alors bah là, il vous écoute, il est sur le plateau avec nous. Qu'est-ce D'accord. que vous aimeriez lui dire?
Oh, bah, un petit message franc et direct. C'est un plaisir de travailler avec toi, Laurent. Et je te souhaite beaucoup de sérénité et de plaisir dans ton travail au quotidien. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour un chef d'entreprise. Et pour une PME en ce moment, c'est pas simple. Et voilà, je trouve que tu y arrives super bien et je te souhaite d'y arriver, de continuer à y arriver, voilà.
Voilà, c'était votre, on peut dire que c'est un ami quand même, un ami, enfin, vous le connaissez bien, puisque ça fait 20 ans que vous connaissez.
Tout à fait, tout à fait.
Collaborateur et
collaborateur
ami.
Collaborateur et ami. Et alors, vous refaites comme ça la déco, ça vous prend?
Vous êtes très déco d'intérieur aussi, donc, si j'ai bien compris.
Alors j'ai toujours aimé la décoration d'intérieur et ça aurait pu être également en fait une orientation pour moi et ça m'aurait beaucoup plu de travailler dans la décoration d'intérieur.
J'ai l'impression que vous aimez les belles choses en fait.
Tout à fait, ouais. Oui.
Bon, c'est ce qu'il en ressort. On a une petite surprise.
Encore une?
Eh oui, une deuxième.
C'est incroyable.
Voilà, j'ai contacté quelqu'un, une amie astrologue.
Vous avez une amie astrologue?
Oui, j'ai une amie astrologue
d'accord.
chinoise d'ailleurs.
Chinoise?
Elle
bon,
habite
d'accord.
en Chine, alors hier je l'ai appelée, bon, ça a été un peu compliqué.
Elle habite là-bas en plus?
Ah oui, elle habite là-bas, d'accord. Avec le décalage horaire, etc. Bref, en fait, elle m'a fait votre astrologie chinoise. Est-ce que vous connaissez un petit peu?
Pas du tout.
Pas du tout.
Alors, mon signe, c'est le lion, mais en astrologie chinoise, pas du tout.
Oui, parce que vous êtes né le 29 juillet.
Voilà.
Alors, l'astrologie chinoise reprend la date de naissance avec l'année de naissance. Mmh. Figurez-vous, Laurent Bizot, que vous êtes placé sous le signe de la chèvre de feu. Voilà, je vous l'apprends.
Donc, Laurent Bizot est chèvre de
Exactement.
Feu.
Exactement.
Ah oui,
vous
quand même.
Chèvre
oui.
de feu.
Et alors, vous le prenez comment, au premier abord?
Écoutez, très bien.
Hein non, alors, mais c'est bien. Alors, voilà un truc bien. Bio. Non, mais voilà un bon truc bio.
Et les chèvres, c'est,
si vous avez des ronces, des orties, Exactement. Du chien dent, vous mettez des chèvres dans votre pré et je vous garantis que tout ça ne repousse pas et c'est très bio.
Voilà. Ah, mais vous savez que l'éco-pastoralisme est un vrai sujet et tu as un vrai métier.
Absolument. Dans Paris, on voit des moutons le long du périph, par exemple.
Un certain nombre d'entreprises, ce sont leurs activités chez nous.
Alors, les moutons le long du périph, je ne les ai pas vus.
Si, des moutons noirs.
Ouais. Ah, d'accord.
Ouais, oui, c'est vrai.
Ils existent.
D'accord. Bon, bah, je ferai attention alors.
Voilà.
Donc, il y a plusieurs traits qui ressortent en fait de la chèvre de feu. Je ne lui ai pas dit ce que vous faisiez dans la vie. Hein. C'était vraiment. Juste donner votre date de naissance.
Alors allons-y.
Elle m'a dit, je pense que c'est quelqu'un de créatif, d'artistique, prévenant, généreux, facile à vivre, sensible, mais anxieux.
Ah,
est-ce
anxieux
que c'est le cas?
Alors
ouais.
Eh bien écoutez, je me retrouve parfaitement dans cette description. Effectivement, c'est ce côté créatif, à l'écoute, mais effectivement, je prends beaucoup à cœur les choses et puis je reste quelqu'un de sensible. Donc oui, la qualification de quelqu'un qui peut être anxieux, parfaitement.
D'accord. Et puis alors, pareil, elle m'a donné quelques emplois, quelques jobs idéaux, en fait, pour les jobs que font en général les chèvres de feu. Figurez-vous que dedans, il y a acteur, peintre, paysagiste.
Ah ben voilà.
Et je ne lui avais rien dit,
c'est
vraiment.
C'est incroyable.
Animateur télé et danseur. Est-ce que vous êtes bon danseur ?
Pas du tout.
Ah,
ni bon chanteur, donc n'essayez pas de me le demander.
D'accord, bon, on en parle.
Et pourtant, Dieu sait s'il aime la chanson, on va encore l'entendre dans un instant d'ailleurs.
Oui. Et puis tiens, elle m'a donné aussi le nom de quelques chèvres célèbres. Il y a Bill Gates, Steve Jobs, Michel Platini, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Franck Leboeuf. Enfin voilà, plein de...
Il y a des chèvres stars donc.
Et je lui ai demandé aussi pour vous d'ailleurs,
non,
Christophe.
Non, vous n'avez pas fait ça.
Savez-vous que vous êtes chien de métal ?
Je savais que j'étais chien, oui. De métal, je comprends pas
Vous êtes chien de métal, et c'est le 9 mai, c'est ça.
C'est c'est bientôt.
Chien de métal.
Ouais. Voilà. Chien de métal. Et ça va les chiens de métal ?
Oui, ça va. En revanche, vous auriez dû être prêtre, apparemment.
Ah !
Prêtre ou religieux. C'est ce qu'elle m'a dit, hein. Voilà.
Bon, bah, écoutez, j'ai raté ma vocation, voilà, on va dire ça comme ça. Laurent Bizot est avec nous, je vous le rappelle, c'est le patron des paysagistes français. Et mon cher Laurent Bizot, on vous a demandé vos goûts musicaux, bien évidemment. Et après Indochine, vous m'avez dit... U2, j'adore U2. Vous les avez vus déjà en concert, peut-être, je ne sais pas, non ?
Alors U2, oui, je les ai vus plusieurs fois. Alors comme Indochine, c'est également un groupe qui me berce depuis ma tendre enfance. J'aime aussi les retrouver en Irlande, à Dublin, puisque c'est quand même un groupe irlandais.
Absolument.
Et puis cette chanson, effectivement, qui évoque, qui est un hommage à Martin Luther King. Et c'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup marqué durant mes études. J'ai le souvenir d'un professeur d'anglais qui était américain et qui n'hésitait pas le matin en arrivant dans la salle de classe à monter sur le bureau, les pieds sur son bureau, et à s'exprimer pour nous dire qu'il avait un rêve dans la journée. Et donc ça m'avait marqué, bercé.
Comme Martin Luther King.
Voilà.
C'est génial. Ouais.
Et U2 est un véritable hommage. Cette chanson, c'est un véritable hommage à Martin Luther King.
Absolument. In the Name of Love, que l'on va entendre évidemment tout de suite. C'est vrai que moi, j'ai un souvenir assez particulier, figurez-vous, avec U2. Parce que j'étais en séjour à Dublin, je raconte ma vie.
Oui, mais allez-y, ça nous intéresse.
Sur Radio Imo, on a besoin de savoir ce qui se passe. Et donc j'étais à Dublin et j'étais chez George. George, qui est une boîte de nuit de Dublin, très bien fréquentée. Et tout d'un coup, Bono est arrivé.
Incroyable.
Et à 3h du matin, voilà, il était au milieu de tout le monde et en toute simplicité. Et c'était hyper sympa. Voilà, c'était un souvenir, vous voyez. J'espère que vous irez à Dublin de ces jours pour le voir.
Est-ce que vous avez fait une petite photo avec Bono ?
Oui, bien sûr, je dois avoir une photo quelque part.
On la
pas
veut,
ici,
hein.
Mais oui,
on
bien sûr. Ben, avec plaisir. C'est parti, allez. U2, In the Name of Love.
One man comes.
U2, In the Name of Love, voilà, c'est un des choix musicaux de notre invité Laurent Bizot, le patron des paysagistes français, qui est avec nous, lui-même paysagiste à Sèvres d'ailleurs, qui est avec nous dans le Mag de Limo ce vendredi. Vous venez peut-être de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, il est 8h33.
Le Mag de Limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Alors, on parle ce matin jardin, beauté du végétal. Notre invité, je l'ai dit, jusqu'à 9h, c'est Laurent Bizot, paysagiste à Sèvres, président de l'UNEP, artiste qui a du goût puisqu'il adore décorer les intérieurs. On l'a entendu il y a quelques secondes. Alors, les extérieurs, les intérieurs, il faut vraiment faire appel à lui et à ses équipes et à tous les paysagistes de France, bien sûr, qui font un travail formidable, mais qui rencontrent aussi des difficultés. Et en préparant cette émission, vous nous avez dit, bon, moi, le sujet numéro un pour moi, c'est le recrutement, c'est la formation. Parce que comme dans beaucoup, beaucoup de métiers, vous savez, par exemple, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des médecins, même des médecins. Et là, vous me dites, ben, les paysagistes, c'est pareil. C'est très compliqué de faire venir les jeunes vers ces métiers. Pourquoi ?
Alors déjà, effectivement, vous me parliez tout à l'heure de croissance et où on en était, nos marchés, est-ce qu'on avait du travail ? Je vous ai dit oui, qu'on était une filière positive avec des perspectives de croissance qui étaient quand même importantes. Mais une fois qu'on a dit ça, bah, il faut quand même pouvoir réaliser le travail. Donc on était, il faut le savoir, avant l'année 2020, on était vraiment sur une période de croissance importante avec une vraie dynamique. On est aujourd'hui en France, de chiffres, on est 100 000 actifs et on est à peu près 65 000 salariés. Et puis les dernières années, on est sur une base d'environ, en recrutement, d'environ 7 000 personnes par an. Mmh. Donc on est quand même sur une vraie dynamique dans notre filière. Alors effectivement, c'est un des enjeux importants pour notre filière de savoir comment on fait pour recruter. Puisque l'année 2020, on s'est forcément posé la question si c'était toujours à la sortie de la crise. On ne sait pas si on y est ou encore ou pas, mais aujourd'hui, on se pose toujours la question de savoir si c'est effectivement notre premier sujet. Et puis, effectivement, eh ben, avec plaisir, on constate que oui, c'est toujours notre premier sujet, qu'on a toujours besoin de recruter. Mais comment on fait ? Alors,
oui, parce que vous dites avec plaisir, on voit que ça se développe et qu'on a besoin de recruter, mais est-ce qu'il y a en face les petites mains ou les grandes mains, je ne sais pas, nécessaires, quoi. Enfin voilà, c'est ça le problème.
Alors, on travaille énormément sur les sujets d'attractivité de notre filière. C'est le premier enjeu de notre filière et c'est le premier enjeu de notre organisation.
Qu'est-ce que vous dites alors pour attirer les jeunes, par exemple ?
Aujourd'hui, on a un vrai problème de visibilité par rapport aux jeunes.
Vous savez pourquoi
jeunes.
Je vous dis ça ? Parce que quand on pense paysagiste, on pense jardinier, on pense au type qui pousse la tondeuse toute la journée, ça ne fait pas rêver, quoi. C'est vrai.
Alors, enfin, ça dépend. C'est... Il y a des jardiniers qui font rêver.
Oui, non, mais d'accord. Mais là, je vous provoque un peu. Mais c'est vrai que c'est ça l'image que peuvent avoir beaucoup de jeunes aussi.
Alors, figurez-vous que vous ne croyez pas si bien dire, puisque nous avons réalisé en début d'année un sondage auprès des jeunes, justement pour connaître un petit peu quel est leur avis par rapport à notre profession. Alors, le premier point extrêmement positif par rapport à ça, c'est qu'il en ressort qu'ils auraient beaucoup de fierté à travailler sur les sujets d'environnement en extérieur et pour les sujets du vert. Donc ça, c'est déjà un très bon point.
Ça, c'est pour faire pas changer mal. Les choses.
Pour faire changer les choses.
Pas mal. Pas
Ils
mal.
Ont une parfaite conscience des problèmes de climat, de réchauffement climatique, de sujets de biodiversité. Et ce sont des sujets qui les impactent et qui les intéressent. Tout à l'heure, on parlait qu'ils voulaient, lors du premier confinement, et ce sont les espaces verts publics qui leur ont manqué, ce sont vraiment des sujets qui les concernent. Deuxième question qui leur a été posée, c'est est-ce que vous seriez intéressé pour travailler dans les métiers du verre et les métiers du paysage ?
Et c'est quoi les métiers exactement ? Ça va de quoi à quoi en fait ? Quels sont les métiers que vous proposez ?
Alors, c'est aujourd'hui, en fait, on a une multitude de métiers qui sont proposés. Il faut savoir qu'on travaille au sol, qu'on travaille en l'air. Dans notre métier. Au sol, on fait des créations de jardins, on va réaliser des gazons, on va faire des plantations, on va faire de la menuiserie, n'oublions pas, on va faire des terrasses en bois, on peut faire de la petite maçonnerie paysagère, ce qui est une activité qui est à part entière et qui est reconnue comme une activité de notre profession, la petite maçonnerie paysagère.
Installer des piscines.
Alors des piscines, ça c'est bien sûr aujourd'hui une forte demande, c'est en pleine croissance.
C'est un boom là, oui.
C'est un vrai boom, le sujet de la piscine. Et puis, on va également monter en l'air. C'est-à-dire qu'on élague les arbres. Et on a aujourd'hui, plus que jamais, le sujet de la végétalisation du bâti.
Puisque enfin, quand tout ça est quand même, pardon, mais tout ça est quand même très physique. Donc peut-être que c'est ça aussi qui fait que les jeunes se disent bon, pas très envie d'y aller, quoi. Il faut travailler l'hiver, l'automne,
dehors.
Les jeunes, en fait, par rapport aux questions qui leur ont été posées, ce qui ressortait, c'est qu'effectivement, ils avaient un vrai problème de visibilité de notre métier et il en ressortait que c'était un métier physique. Que c'était un métier où ils pensaient qu'il n'y avait pas forcément de débouchés. Alors, on l'a vu que ça, c'est un faux problème. Puisque
oui, parce que ça va du CAP jusqu'au
voilà,
diplôme d'ingénieur, quoi, en gros.
C'est tout l'intérêt aussi de notre filière, c'est de pouvoir embaucher à tout niveau et de pouvoir vraiment évoluer. On peut parfaitement avoir un CAP et puis effectivement avoir un bac plus 4 et avoir des diplômes d'ingénieur. Mais c'est une filière diplômante où il est nécessaire, en fait, d'avoir des formations pour pouvoir travailler dans ce métier-là.
Est-ce que par exemple les jeunes qui sont en formation aujourd'hui, tout à l'heure je donnais des noms en latin des plantes, et c'est vrai que moi-même qui ai eu une vie passée autour de ça, effectivement, c'était pas facile quand même d'apprendre tous ces noms en latin des plantes. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes qui arrivent sur le marché connaissent bien tous les noms des plantes, justement ?
Non.
Ah voilà. Bon. Non mais
alors,
non.
Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
C'est compliqué.
Ça veut dire que en fait, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que le végétal, plus que jamais, doit être au cœur de nos activités. Le végétal, est nécessaire, mais pour apprendre à planter, à maîtriser et à entretenir le végétal, il faut bien évidemment le connaître. Donc là encore, notre organisation professionnelle et l'ensemble des élus qui sont partie prenante sur le sujet, on mène beaucoup d'actions, essentiellement avec les écoles, pour remettre au goût du jour, la connaissance et la reconnaissance des végétaux, c'est absolument essentiel.
Donc vous avez des jeunes qui arrivent aujourd'hui, même s'ils sont diplômés avec un CAP par exemple, qui ne connaissent pas forcément le nom des plantes.
Oui.
C'est un problème quand même.
C'est un vrai problème que l'on rencontre. Et puis très clairement, un chef d'entreprise, quand il fait ses entretiens d'embauche, c'est un vrai critère d'embauche, malheureusement, on constate souvent un vrai décalage et une vraie méconnaissance des végétaux, en fait, des étudiants ou des jeunes qui viennent dans notre filière.
Et pourquoi il y a une baisse de niveau comme ça, en fait ?
Alors, il y a eu au fil des années probablement un problème à la fois au niveau de l'enseignement, au niveau des relations qu'il y a pu y avoir entre les professionnels et les enseignants et qui n'ont pas su, faut dire les choses très clairement, qui n'ont pas su identifier ce sujet-là et qui n'ont pas su remettre ça en avant. Donc depuis quelques années, on renverse cette situation. Je donne un simple exemple. On participe à tout ce qui est concours d'excellence. Donc les concours d'excellence, c'est quoi ? C'est le World Skills, c'est le nouveau nom des Olympiades des métiers, où on met ces métiers-là en avant, dont le nôtre, bien sûr. Mmh. Et puis les concours de reconnaissance des végétaux avec des concours régionaux et qui terminent par un concours national.
Mmh. Et ça, on voit à ce moment-là, évidemment, les difficultés apparaître, j'imagine.
Exactement.
Bon, dites-moi, j'ai encore deux questions rapides à vous poser. Tout d'abord, ça paye bien ou pas, ce métier de paysagiste ?
Alors, c'était aussi une des trois réponses des jeunes sur le sondage qui était effectivement avec ce problème de rémunération. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un métier qui embauche à tout niveau. C'est-à-dire que c'est un métier où on peut parfaitement commencer.
Donc on peut aller de combien à combien, suivant le niveau où l'on est.
C'est un métier où on peut avoir des salaires de 1700, 1800 euros net par mois en commençant. Mmh. Et puis on finit conducteur de travaux, commis d'entreprise, directeur d'agence avec des salaires de 3, 4 et 5 000 euros et plus. Mmh. Et puis après, de toute façon, on a des postes très définis. Hein, le poste, je vous citerai juste un exemple sur le sujet de l'élagage. Un élagueur aujourd'hui qui est pour les jeunes une prestation et un métier très valorisé permet quand même d'avoir une rémunération plutôt forte.
Dites-moi une petite question qui va intéresser Bérénice, parce que c'est vrai qu'on se dit d'ailleurs c'est une question d'une auditrice que l'on
Sophie.
A reçue, hein, Sophie, qui dit et les femmes.
Est-ce qu'il y a des femmes, du coup, là on parle de recrutement, est-ce qu'il y a des femmes et quelle est la place des femmes dans ces métiers ?
Autre sujet de l'attractivité de notre filière, effectivement, on vient de parler des jeunes, mais les femmes, malheureusement, nous manquons de femmes dans notre profession. Alors, les femmes présentes sont essentiellement aujourd'hui sur des postes administratrices, mais pas
elles
forcément
sont dans les bureaux,
sur. Elles sont dans les bureaux, mais elles sont pas forcément sur le terrain. Alors que
Pas du tout. Il y en a quand même quelques-unes.
Très peu. On est sur des chiffres de 5% dans la profession,
d'accord,
pas plus. Alors que on sait très bien que mixité et développement économique, c'est forcément très bon pour les entreprises. Et puis pour nous, c'est vraiment une source et une recherche de nouveaux talents.
Bon, on a besoin de femmes, on a besoin d'hommes pour planter notamment les géraniums. On va en parler dans quelques instants parce que le prix des géraniums explose. Ça, c'est un vrai problème quand même. Bah oui, pour beaucoup de Français, c'est compliqué. Oui. Donc on va en parler dans quelques instants. Mais avant, au rayon des surprises, évidemment, nouveau témoignage, Bérénice.
Nouveau témoignage d'un ami, si je vous dis Fabrice.
Bru.
Exactement. Votre ami de longue date.
Tout à fait.
Et alors, cette amitié, en deux mots ?
Eh bien, c'est un ami que, effectivement, on se connaît peut-être depuis une quarantaine d'années. C'est qui fait le même métier, mais aujourd'hui, c'est pas un confrère, c'est un ami. Mmh. Et on s'est rencontrés.
C'est pas un concurrent, quoi.
C'est absolument pas un concurrent. C'est un ami. Et on s'est rencontrés pour la première fois sur le marché international de Rungis.
Ah oui.
Et qui, autrefois, eh ben, on se retrouvait avec nos camions, nos achats de géranium ensemble. On partageait ces achats de géranium et puis après, on se retrouvait pour aller partager un café après avoir fait nos achats.
Bon, on va l'écouter.
On va l'écouter,
mais il faut dire juste une chose avant de l'écouter, quand même. C'est que, à la différence de vous, il n'aime pas trop parler.
Non.
Hein, voilà.
Et il était...
C'est un taiseux.
Il était très touché, il était très
ému. On y va.
Bonjour Fabrice Bru.
Bonjour.
Vous êtes un ami de Laurent Bizot, un ami de longue date. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez ?
Certainement plus de 15 ans.
Ah oui, et je crois que vous aimez vous voir.
Oui, beaucoup. Plus on se voit, mieux on se porte.
Ça, c'est les vrais amis. Alors, il y a 15 ans, vous vous êtes rencontrés comment ?
Par l'intermédiaire de ma sœur, qui, elle, était déjà amie avec lui depuis plusieurs années.
D'accord. Et depuis 15 ans, du coup, ça a été tout de suite une amitié, il y a 15 ans ?
Oui.
Qui s'est gravé dans le marbre ?
Exactement. Si on s'appelle souvent et si on ne s'est pas eu au téléphone depuis quelques temps, et ben, ça nous manque. Donc on s'appelle. Et depuis le Covid, c'est vrai que c'est de ne pas se voir, c'est compliqué.
Ah oui, ça vous pèse ?
Oui.
Et comment il est, Laurent, en ami, en amitié ?
Fidèle, attentif.
D'accord. Alors, on a une tradition dans le MAC de Limo. Nous sommes actuellement avec Laurent sur le plateau. Je sais que c'est compliqué pour vous de parler, vous me l'avez dit. Vous n'êtes pas du genre à vous exprimer, mais qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, justement, en tant qu'ami ?
Qu'il garde toujours sa gentillesse et qu'on reste amis le plus longtemps possible.
On sent bien le longtemps possible, toute l'amitié et l'amour qu'il a pour vous. Voilà. C'est important quand même. Je vous sens ému.
Oui, bon. Laurent est touché. Les silences qui veulent tout dire.
Ouais. Non, mais il y a des silences qui en disent long,
c'est
tout
ça.
Simplement. Voilà.
Merci,
mais en tout
Fabrice.
Cas, Fabrice est là et il est là pour longtemps, j'ai l'impression.
Oui,
allez,
histoire.
On va continuer votre playlist musicale, bien évidemment. Vous adorez Mylène Farmer. On va écouter California. Mmh. Mylène Farmer, pourquoi ? Et en concert, combien de fois ?
À peu près 15 fois, je suis allé la voir en concert et je me suis même déplacé dans le sud de la France pour aller la voir. Une seule déception, un jour je l'ai croisée en courant, je lui ai demandé une photo, elle m'a dit non.
Voilà.
Et j'ai toujours eu cette déception avec elle.
Oui, mais c'est le personnage, voilà, ça va avec
ce
personnage.
Les stars, ce sont les stars.
Non, elle m'a beaucoup fait partager mon enfance. Et effectivement, je l'ai vue énormément de fois. Et puis cette chanson que j'ai choisie, California, pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup les États-Unis, région ouest des États-Unis. Et puis,
les vignes, le vin.
Et une autre passion pour moi qui est effectivement le vin.
Voilà,
avec
bravo.
Ces régions.
Allez, c'est parti, Mylène Farmer, California.
Viens à la nuit.
Mylène Farmer, California, c'est le choix de Laurent Bizot, notre invité, qui est le grand patron des paysagistes français qui nous accompagne sur Radio Imo jusqu'à 9h dans le mag de l'Imo. Tiens, on voulait parler des géraniums juste avant de se quitter, parce qu'alors le prix des géraniums explose. Alors d'abord, il explose de combien et puis c'est dû à quoi alors? Parce que tout le monde plante ses géraniums en ce moment, pardon, mais c'est le sujet.
Alors attention, ne nous précipitons pas sur la plantation des géraniums et sur la plantation
Pourquoi
des fleurs.
Ça va geler encore, c'est ça?
Les saints de glace, je pense que vous avez entendu
parler.
Mimé,
des saints de glace. Les saints de glace, ça se termine mi-mai, je crois.
Alors le géranium est une plante un petit peu plus solide que d'autres plantes annuelles. Oui. Mais attention, nous ne sommes jamais à l'abri de toujours d'un fort coup de gelée.
Bon, il ne faut pas les planter tout de suite, alors.
Pas de précipitation, bon, pas de précipitation sur les géraniums. Alors le géranium, je pense que ça n'est qu'une illustration du problème du végétal, en règle générale, que l'on a aujourd'hui. On a un problème de pénurie au niveau des végétaux, on manque de végétaux. Donc,
c'est dû à quoi alors ça ?
Plusieurs phénomènes. En fait, il s'est passé que sur l'année 2020, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu une vente importante au niveau des pépiniéristes, horticulteurs et jardineries des végétaux. Les gens se sont rués pendant le premier confinement. Il y a eu une forte demande. Il y a eu ce qui a entraîné une baisse. Une baisse de la production. Et puis, il y a eu un vrai problème de mise en culture au niveau des producteurs, puisque, vous savez, c'est un géranium, c'est 6 mois avant. Une plante, c'est pas du jour au lendemain qu'on met la petite graine et puis qu'il faut la faire pousser. Donc, un manque de mise en culture.
Ça ne suffit pas derrière.
Nous avons eu aussi, l'été dernier, des fortes chaleurs qui ont entraîné des pertes de végétaux.
Il a fait très chaud, au mois d'août.
Et puis, effectivement, l'histoire du Covid a entraîné aussi des problèmes de production et de circulation de ces végétaux. Alors, bien évidemment, on promouvoit l'achat local. Et il est important, quand on va acheter, de pouvoir acheter à un pépiniériste ou à un horticulteur de son coin. C'est important, ne serait-ce que pour la qualité de la plante, mais surtout la résistance de la plante. Mmh. C'est important de pouvoir acheter à côté. Mais les végétaux ne viennent pas forcément de quelques kilomètres à côté de chez soi.
Oui, c'est beaucoup de variétés qui viennent d'Espagne, d'Italie.
Exactement.
Et
on a beaucoup de plantes européennes.
Donc
on a aussi ce problème de circulation. Donc aujourd'hui...
Donc le prix ?
Il augmente.
De combien ?
10, 20, 30, 40, 100% sur certaines plantes.
Ah oui, quand même.
Ah oui.
C'est uniquement sur une question de disponibilité. Une plante qui se trouve extrêmement rare, forcément, elle va
grimper. Quelle plante, par exemple ? Vous avez un exemple ?
Un problème sur les camélias, je crois.
Exactement, je vais vous donner cet exemple-là sur un problème personnel que j'ai rencontré. Une commande d'un particulier, une très belle commande d'un particulier qui souhaitait planter des gros sujets de camélias chez lui avec des variétés très précises et impossible de lui trouver, malheureusement.
D'accord. Voilà, donc ça c'est un vrai problème, oui, effectivement.
Ah oui, du coup, vous faites quoi dans ces cas-là? Vous remplacez par d'autres plantes ou vous attendez?
Alors, on essaye de répondre au mieux à la demande de notre client. Soit on lui fait des propositions sur d'autres variétés, soit à cette époque-ci de l'année qui reste une période possible de plantation, mais on prend quand même un petit peu de retard. Donc on lui propose d'attendre l'automne qui va être une période qui peut être un peu plus favorable, où ça ira mieux.
D'accord. Ouais.
Alors, moi, je voulais savoir aussi une chose, évidemment, par rapport à tout ça, c'est comment vous voyez le monde d'après, l'après-Covid, pour votre profession.
Moi, je considère qu'on a une formidable opportunité dans notre filière. L'année 2020 a été compliquée pour tout le monde, on va pas revenir dessus, mais elle a mis... Un à la fois en avant l'intérêt du verre, l'intérêt d'avoir un jardin, l'intérêt d'avoir un balcon. Mais en parallèle de ça, et ça n'était pas nouveau, on travaillait beaucoup sur ces sujets de transition écologique, de biodiversité. Et je pense que c'est une formidable opportunité pour notre filière de se mettre en avant et de se rendre beaucoup plus visible. Nos métiers sont des métiers de professionnels, sont des métiers techniques qui nécessitent des formations et qui nécessitent véritablement des connaissances. Et quand tout à l'heure vous me parliez des jeunes et ce problème de visibilité qu'on rencontre avec les jeunes où ils avaient une image qui était fausse de nous, qui on va dire qui était un peu ancienne, de pousseur de tondeuse. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Notre métier, c'est un métier d'avenir, c'est un métier qui a vraiment du sens. Et les entreprises de paysage sont là pour répondre aux demandes de ses clients. Et je pense que nous sommes vraiment sur un tournant et sur une opportunité incroyable.
Par exemple, vous, à Suresnes, pour votre entreprise, vous avez un repreneur ? Vous pensez que vous aurez un repreneur ?
Alors aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Me concernant, c'est pas d'actualité. Mais oui, effectivement, les entreprises, de toute façon, il y a des gens qui partent, qui arrêtent, qui partent en retraite, etc. On est dans les années à venir, il y aura à peu près 5000 entreprises qui vont être sur le marché destinées à être prises.
À être vendues, donc.
À être vendues. Oui. Et à ce sujet, nous venons, au niveau de notre organisation professionnelle, lancer une énorme plateforme de travail pour aider les repreneurs d'entreprises avec des modules de formation, parce que nous sommes là également pour ça, c'est-à-dire que nous accompagnons au quotidien les chefs d'entreprise dans leur vie de chef d'entreprise, mais aussi pour permettre de reprendre nos entreprises.
Bérénice, je crois qu'il y a un dernier témoignage qui attend notre invité, parce que ça fait partie des surprises qu'on vous a réservées ce matin, et c'est pas le plus petit des témoignages.
Ah ben non, on l'a gardé pour la fin, donc forcément...
C'est le big love, là.
Forcément, c'est ça, c'est le big love, je pense que vous en doutez, votre compagne, je vois déjà les yeux qui pétillent. Voilà, on l'a eu au téléphone, on écoute tout de suite Cécile.
Bonjour Cécile, vous êtes la compagne de Laurent Bizot.
Bonjour.
Première question, comment vous êtes-vous rencontrés ?
Alors, ce qui nous a réunis, Laurent et moi, c'est une passion que nous avons en commun pour le vin. Voilà, notre première discussion portait sur le vin. Donc Laurent et moi, on ne boxe pas dans la même catégorie, parce que Laurent est vraiment passionné. Il y a une érudition. Il a même pris des cours d'œnologie. Il est diplômé. C'est un peu comme si j'avais un sommelier perso à la maison, ce qui est très agréable. Donc voilà. Donc notre premier échange, je lui ai dit que j'aimais le Pessac Léognan et ça lui a plu. Voilà.
Et comment est Laurent à la maison en tant que compagnon ?
Bah écoutez, Laurent est quelqu'un qui est authentique, donc je pense qu'il est pas très différent à la maison par rapport au reste des interactions qu'il peut avoir sur le plan professionnel ou amical. C'est quelqu'un qui est sociable, intelligent, drôle, qui est très prévenant, attentionné. Il a de vraies qualités humaines. Il y a une élégance morale. C'est quelqu'un de très agréable à vivre.
D'accord. Nous avons une tradition dans le Mac de Limo. Laurent, vous le savez, est avec nous en plateau. Il vous écoute. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, Cécile ?
Écoute, Laurent, j'ai envie de te dire, surtout ne change rien, reste tel que tu es. Je pense que c'est le plus joli compliment qu'on puisse faire à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est juste extraordinaire et qu'il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit, même si tu es perfectionniste dans l'âme. Donc, reste tel que tu es.
Extraordinaire.
C'est
beau. Dis donc, c'est rare que ça arrive, ça, dans un couple, je trouve.
Bah, écoutez, bon, vous m'accorderez, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails intimes.
Quoique le Pessac Léognan, c'est pas mal.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Simplement, effectivement, oui, ce sujet du vin est un sujet important pour moi, ou une passion. Et effectivement, j'ai passé des diplômes par rapport à ça. On n'est quand même pas très éloigné, en fait, de toute façon, du paysage et des plantes. Et puis, on apprend.
Vous n'avez pas le regret de ne pas avoir quelques vignes, non ?
Alors, ça a toujours été une question, et j'aurais aimé effectivement avoir un petit bout de vigne et à pouvoir produire quelques jolies bouteilles, effectivement.
Ben voilà. Alors, à part le Pessac Léognan, quelques conseils peut-être en passant, puisque vous êtes un spécialiste du vin, à consommer avec modération.
Évidemment.
Bien sûr,
Bon.
Je pense qu'aujourd'hui, une des régions les plus favorables, c'est le Languedoc, les Côtes du Roussillon, qui ont énormément évolué et qui proposent de très très jolies bouteilles pour un prix très raisonnable.
Du côté de l'Occitanie, d'ailleurs, il y a un vin que je vous conseille. Vous connaissez peut-être le Pic Saint-Loup.
Mais bien sûr, je connais. Là, le Pic magnifique. Saint-Loup au-dessus de Montpellier. Avec
Il est encore un peu tôt. Hein.
Oui, là, il est un peu tôt, mais bon, voilà. Écoutez, merci beaucoup, Laurent Bizot, d'être passé nous voir dans le Mac de Limo sur Radio Imo. On était ravis de vous accueillir pour parler de ce métier magnifique, de votre métier paysagiste et de tous les professionnels que vous représentez. Donc, merci beaucoup d'être venu. Vous revenez quand vous voulez, en fait. La porte est ouverte, il n'y a pas de souci.
Eh bien, merci à vous de m'avoir accueilli. C'était avec un grand plaisir que j'ai pu partager cette heure avec vous et puis vous montrer que nous étions un vrai métier, une vraie filière d'avenir et que on était là et que nous attendons les jeunes, les moins jeunes, les gens en reconversion et que nous étions une filière très vertueuse.
30 000 entreprises dans toute la France, je le rappelle. Merci encore une fois. Dans quelques instants sur Radio Imo, Allô Radio Imo, les spécialistes de l'immobilier répondent à vos questions et c'est important parce que vous êtes nombreux évidemment à poser vos questions sur les réseaux sociaux de Radio Imo. Et puis n'oubliez pas également vers 20h ce soir, toujours sur Radio Imo, La Maison où je vis, découvrez les maisons de stars. Et notre invité ce mois-ci, c'est David Douillet. David Douillet qui s'est lancé dans le co-living et qui nous racontera pourquoi il a pris cette décision d'aider tout simplement les jeunes sportifs qui ont du mal à se loger. Vous savez tout, merci beaucoup. Dans quelques instants, il sera 9h et ce sera l'heure des infos. Bonne journée.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.imo et toutes les plateformes de streaming.